Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Soir. À la une, l'été en demi-teinte des patrons d'hôtels en France. Malgré le déconfinement, 25% des établissements n'ont pas rouvert, faute de touristes étrangers notamment en nombre suffisant. Et alors que l'instauration du pass sanitaire risque de compliquer encore les choses. Justement, à propos du pass sanitaire, à propos de la vaccination obligatoire pour les soignants, le texte de loi est présenté dans une demi-heure au Conseil des ministres. On sera à l'Élysée dans un instant pour les derniers arbitrages attendu, alors que le texte doit être adopté définitivement d'ici la fin de semaine. Calendrier donc au pas de charge pour contrer une propagation stratosphérique à nouveau du Covid version Delta. Stratosphérique, c'est le mot qu'a employé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. On sera dans ce journal en direct avec le maire de Collioure, station balnéaire des Pyrénées-Orientales où l'épidémie flambe, notamment chez les plus jeunes. Dans ce journal, la traque à Gréolières dans les Alpes-Maritimes, les gendarmes recherchent un homme soupçonné d'avoir abattu ce week-end une femme de 32 ans. Cet homme est armé, dangereux. Il a d'ailleurs tiré hier soir sur un gendarme qui tentait de l'interpeller. Et puis l'invité d'RTL Soir, tout à l'heure à 18h15, sera le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, qui dénonce une décision selon lui dangereuse de la Cour de justice européenne qui demande à ce que les militaires français hors mission soient soumis, comme tous les autres, au droit du travail classique. La météo, bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors Claire, l'été est là et pour tout le monde en plus.
Exactement, soleil et chaleur au rendez-vous. D'ailleurs, côté température, c'est surtout le sud-ouest où les pointes seront les plus écrasantes, de 31 à 35 degrés localement. Partout ailleurs, ça sera un petit peu plus clément, surtout en direction du nord-est avec 24 à 29 degrés. Puis côté ciel, donc le soleil domine dès la matinée avec quelques entrées maritimes principalement vers la côte basque. Et dans l'après-midi, quelques cumulus vont se développer sur l'ensemble des régions avec un ciel un petit peu plus variable au nord de la Seine, également en direction du sud-ouest. Et puis quelques orages également à prévoir en direction des Alpes.
Merci beaucoup Claire Delorme. N'oublions pas les cumulus surtout.
RTL Soir.
Le déconfinement de l'été pour eux n'aura été qu'une embellie finalement assez partielle. 25% donc des hôtels en France n'ont pas rouvert leurs portes, faute de pouvoir être rentables. C'est surtout le cas d'ailleurs dans les grandes villes. Et à Paris, c'est la clientèle étrangère surtout qui manque à l'appel, Nerissa Emani.
Oui, pour la première fois en 30 ans, l'hôtel de Sophie situé près du Louvre restera fermé tout l'été, faute de clients étrangers.
Comme on a une grosse part de clientèle américaine et australienne l'été, plus de 50%, on s'est dit que de toute façon cette clientèle là, on ne l'aurait pas tant que la situation ne serait pas vraiment revenue à la normale. Pour pouvoir ouvrir, il faut un minimum de chiffre d'affaires parce qu'il faut du coup faire revenir le personnel qui n'est plus au chômage partiel. Remettre la clim, c'est trop cher.
Nade Hôtel, bonjour.
Pourtant, d'autres collègues ont pris le risque d'ouvrir, mais à quel prix ? Antoine tient un hôtel dans le 20e arrondissement et son taux de remplissage pour l'été est 4 fois plus bas qu'en 2019.
La semaine dernière, on a dû faire 30%, puis là, on va redescendre à 20-25%, avec des tarifs qui sont moins élevés que d'habitude. C'est pas hyper rentable, mais enfin, ça fait un flux d'argent quand même.
Ça serait bien que les aides continuent quand même jusqu'à la fin de l'année. Sinon, on va être décimé. Hein.
Car depuis les annonces présidentielles autour du pass sanitaire, Antoine a reçu plusieurs mails d'annulation pour des séjours en août.
Merci beaucoup Nerissa Emani du service économique et social. Donc le pass sanitaire, on vient de l'entendre, qui va en plus donc compliquer la vie de ces patrons d'hôtels, puisqu'il sera obligatoire ce pass dans leurs établissements pour les salles de restauration. Le projet de loi qui va valider ces mesures est présenté dans une demi-heure en Conseil des ministres. On vous rejoint donc à l'Élysée, William Galibert. Bonsoir.
Bonsoir.
Le pass sanitaire, c'est l'un des éléments que l'exécutif est certain à ce stade de vouloir instaurer.
Oui, en fait, il y a deux éléments, Olivier, deux piliers dans les choix d'Emmanuel Macron. Un, la vaccination obligatoire pour les soignants. Et deux, l'extension donc de ce pass sanitaire, bientôt obligatoire pour aller au cinéma, au resto ou pour monter dans un train. Ça, on n'y touche pas, c'est la base, c'est la structure. Ensuite, pour le reste, il y a peut-être moyen de s'arranger. L'exécutif parle déjà de souplesse dans l'application de certaines règles ou dans le barème des sanctions. Et s'il y a ces marges de négociation, c'est que le temps presse. Demain, passage du texte en commission à l'Assemblée, puis dans l'hémicycle mercredi, puis au Sénat jeudi, et une adoption définitive espérée en fin de semaine. C'est un sprint. Et le gouvernement veut s'éviter le moindre grain de sable pour tenir ses délais.
William, le gouvernement pourrait donc évoluer sur des points importants qu'on a évoqués d'ailleurs récemment, notamment le niveau de sanctions pour les responsables d'établissements qui contrôleront pas ou mal le pass sanitaire de leurs clients.
Oui, c'est ça. Si un commerçant refuse de contrôler votre pass sanitaire, on peut peut-être commencer en dessous des 40 000 euros d'amende qui étaient prévus dans la première version de la loi. Certains plaident pour 1500 euros, d'autres pour 9000 euros. Elles sont là, les possibilités d'aménager le texte. Et ça, ça sera surtout le travail des parlementaires. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un pass sanitaire pour s'asseoir en terrasse, par exemple? Le texte va évoluer, mais il comprendra bien un principe d'isolement obligatoire de 10 jours pour les malades. Le Conseil d'État n'a rien trouvé à redire dans un avis qui était très attendu et qui est en train de commencer à nous arriver. Et c'est donc vers le Conseil constitutionnel que les opposants du texte vont maintenant se tourner.
Merci beaucoup William Galibert du service politique d'RTL en direct donc depuis l'Elysée à une demi-heure de ce Conseil des ministres. Ce calendrier accéléré qu'on vient d'évoquer, il a été voulu par l'exécutif. Il est dicté évidemment par la flambée soudaine du variant Delta. On le rappelle, l'épidémie a progressé de 80% en une semaine. C'est inédit depuis le début de la crise sanitaire. Notez-le d'ailleurs, l'invité d'RTL Matin demain à 7h40 avec Stéphane Carpentier sera le ministre de la Santé Olivier Véran et il restera à 8h20 pour répondre à toutes vos questions au 3210. Alors sur l'accélération spectaculaire de cette quatrième vague, elle est flagrante dans les zones de vacances, notamment cet été, par exemple dans les Pyrénées-Orientales, le taux d'incidence dépasse maintenant les 300 pour 100 000 habitants dans la région donc de Perpignan. L'invité de ce journal est le maire de Collioure, station balnéaire précisément des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Guy Aubet.
Oui, bonsoir Olivier Bois.
Depuis hier soir, les bars, les restaurants de votre commune notamment et de tout le département sont obligés à nouveau de fermer à 23h. Est-ce que c'était inévitable, selon vous, face à cette flambée?
Oui, ça m'a toujours paru inévitable. Vous savez, nous sommes une commune de 2500 habitants. Nous passons à 20 000 habitants pendant la saison estivale, plus 10 000 visiteurs quotidiens, ce qui donne une population quotidienne de 30 000 habitants. Donc c'est beaucoup. Nous avons une configuration géographique dans la commune qui est très particulière. C'est les rues étroites, ce sont des rues anciennes, historiques. Donc
il y a une proximité
nécessaire. Une proximité, une grande promiscuité dans les rues qui font que il fallait prendre des mesures. Vous savez, vous avez cité le taux d'incidence hier, c'était 300 cas pour 100 000 habitants, mais c'est 189% sur une semaine, et les trois classes d'âge les plus touchées, 10, 19, 20, 29 ans, 30, 39 ans, de 20 à 29, c'est 1149 cas pour 100 000 habitants, c'est 438 cas pour 30 à 39 ans, ce qui fait 348% en une semaine. Il fallait prendre les mesures, et moi je suis pour ces mesures.
Mais alors la question qu'on se pose tous et que les autorités se posent. Est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'élu local, déjà une conséquence dans vos services hospitaliers?
Actuellement, je ne la sens pas, honnêtement. Je le suis de très près, je suis en relation avec... vous savez, bon, j'ai pris un arrêté municipal prématuré avant l'arrêté préfectoral pour le port du masque, mais toute ma stratégie c'était de faire de la prévention le principe de précaution. Ensuite c'est d'installer tous les mercredis jusqu'au 25 août un centre de vaccination éphémère pour vacciner surtout les saisonniers. J'ai 750 saisonniers sur la commune, mais aujourd'hui, bon, pour répondre à votre question particulièrement, au niveau hospitalier il y a des alertes, mais je ne sens pas cette augmentation. Ce qui est paradoxal par rapport à ce qu'on voit sur le terrain.
Oui, vous avez évoqué le principe de réalité, puisque vous-même vous dites que la mesure des 23 heures était inévitable. Ça reste quand même une douche froide, j'imagine, pour la saison de vos professionnels du tourisme qui attendaient beaucoup de cet été et qui ne s'attendaient pas surtout à une telle flambée.
Alors je ferai peut-être un petit particularisme. Une douche froide, bon, 23 heures pour les restaurants, c'est pas très critique. Là où c'est critique, c'est pour les bars. Les restaurants à 23 heures, bon, le second service est fait. Bon, donc il n'y a pas trop de problèmes majeurs.
Même pour les bars de plage,
mais pas beaucoup. Ben les bars de plage, c'est encore autre chose. Un bar à 23 heures, il est fermé. Donc la problématique est là. C'est surtout sur les bars. Les bars et les terrasses, quoi. Là, c'est compliqué. Les bars, c'est compliqué. Les restaurants, c'est de la prévention, c'est beaucoup moins compliqué. Mais sur les bars, c'est très compliqué.
Merci. Merci beaucoup, Guy Aubet, d'avoir été l'invité de RTL Soir. Ce soir, je rappelle donc que vous êtes le maire de Collioure, station balnéaire des Pyrénées-Orientales, particulièrement touchée en ce moment par la flambée épidémique. Et puis voilà maintenant un sujet que surveille de près le gouvernement. Les opposants au vaccin, les opposants au pass sanitaire se font entendre dans la rue, notamment ce week-end, on l'a suivi sur RTL. Ils étaient 114 000 à manifester un peu partout en France, selon le ministre ministère de l'Intérieur. Plus grave, un centre de vaccination a été visé. A priori, l'enquête devra le confirmer par des actes de sabotage à Audincourt dans le Doubs. L'alimentation électrique a été coupée hier soir et le maire de la ville, Martial Bourquin, a décidé de porter plainte.
Pour une panne d'électricité normale, le groupe électrogène immédiatement se met en route. Et là, les deux avait été disjoncté, si bien que les vaccins qui étaient stockés là étaient immédiatement en danger. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous avions une alarme qui nous prévenait immédiatement. On a isolé entre 3 et 5 000 doses par précaution et nous avons décidé ce matin de vacciner avec d'autres vaccins. C'est un acte de vandalisme volontaire perpétré contre un centre de vaccination. J'aurais pas été aussi affirmatif hier. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu des militants anti-vaccins autour du centre qui m'ont agressé très sévèrement verbalement, je n'ai plus aucun doute.
Le maire d'Audincourt, Martial Bourquin, dans le Doubs, joint donc par Yannick Holland.
RTL Soir, Olivier Bois.
18h10 sur RTL, la traque est toujours en cours dans les Alpes-Maritimes à Gréolières. Les gendarmes, notamment le GIGN, recherchent cet homme de 33 ans, soupçonné d'avoir abattu dans la nuit de samedi à dimanche une ancienne petite amie à côté de Saint-Tropez. Il s'appelle Marc Floris, un appel à témoins a été lancé. Il est armé, jugé dangereux, il a d'ailleurs tiré sur les gendarmes hier soir quand ils ont tenté de l'interpeller une première fois. Il est depuis totalement introuvable. Étienne Baudu, que sait-on ce soir de cet homme ?
Eh bien, il s'appelle donc Marc Floris, 33 ans, brun, 1m75, longiligne. C'est le descriptif de l'appel à témoins lancé à la mi-journée par la gendarmerie. Il est conducteur d'engins de travaux dans une entreprise de la Côte d'Azur où il est, semble-t-il, très apprécié. Il a grandi dans le village où on le connaît bien, décrit par certains comme taciturne. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir imaginer ce qui s'est passé, ce féminicide. Il aurait tué sa compagne ou ex-compagne d'une balle dans la tête. Alors l'homme est un chasseur, armé au moins d'une arme de poing et peut-être d'une arme longue. Il a échappé à la vigilance des gendarmes après leur avoir tiré dessus lorsqu'ils venaient l'interpeller. Il connaît parfaitement la région, une région boisée et montagneuse, escarpée, particulièrement difficile d'accès. On a d'ailleurs aperçu des militaires du GIGN accrochés à plusieurs sur un filin et litreillés pour inspecter des grottes ou abris naturels nombreux dans les environs. Les moyens humains sont importants, 180 gendarmes qui bouclent les voies d'accès en cas de fuite à bord d'un véhicule et plusieurs hélicoptères survolent la région à la recherche du moindre indice.
Merci beaucoup Étienne Baudu, correspondant d'RTL dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois depuis sa mise en examen vendredi dernier pour prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République cherche à savoir s'il a profité de ses nouvelles fonctions de ministre pour intervenir dans des dossiers qui le concernaient auparavant quand il était avocat. Éric Dupond-Moretti exclut toute démission.
Je suis plus que jamais déterminé à être pleinement ministre de la Justice. D'abord, on ne me reproche pas d'avoir piqué dans la caisse. Ça, vous le savez. Que me reproche-t-on ? On me reproche d'avoir saisi l'inspection générale de la justice composée de magistrats indépendants à la suite de procédures initiées par ma prédécesseur, Nicole Belloubet. Je veux encore dire, et vous comprendrez toute ma détermination, que tout cela est parti d'une déclaration de guerre. Ce sont les propos utilisés par les syndicats de magistrats à mon encontre dans les 2 heures de ma nomination. Les mêmes syndicats qui ont dit que cette plainte avait pour objet et pour seul objet de me faire mettre en examen. Rien n'entamera ma détermination. Je suis extrêmement serein.
La mise au point cet après-midi du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. La ministre des Armées, Florence Parly, elle est en colère contre la Cour de justice européenne. L'instance juridique supranationale a estimé dans un arrêt rendu la semaine dernière que les militaires français devaient être soumis au droit du travail classique, en tout cas quand ils ne sont pas en mission, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Christophe Decroix.
Effectivement, jusqu'à présent, la doctrine de l'armée française, c'est d'être disponible en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la fonction du militaire. Donc pas de 35 heures, mais des compensations. Par exemple, un militaire a le droit à 45 jours de permission par an, quand la moyenne des congés des salariés français est de 25 jours. La Cour de justice européenne, elle, fait une distinction entre les soldats qui sont en opération et ceux qui sont dans l'administration, les services de santé ou le maintien de l'ordre. Ça veut dire que pour les soldats qui sont dans l'opération Barkhane ou Sentinelle, ou qui sont en train de préparer ce type d'opération, pas question de réclamer l'application stricte du droit du travail. On ne va pas cesser le coup de feu contre des djihadistes parce qu'il est 18h. En revanche, pour ceux qui ont des tâches plus administratives, plus courantes, il doit être possible de planifier des horaires et des plages de repos. La France dit non parce qu'elle ne veut pas d'une armée à deux vitesses et parce qu'un militaire peut se retrouver très vite dans des fonctions opérationnelles. Cela ferait donc courir un risque à l'efficacité de nos soldats. C'est l'avis de la France. Pas celui de l'Allemagne, qui a choisi, elle, de respecter cette directive.
Merci beaucoup, Christophe Decroix, chef du service étranger RTL, et l'invité d'RTL Soir, dans 3 minutes, est le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean. Ils sont des milliers de fêtards britanniques à s'être précipités dans les boîtes de nuit aux premières heures de ce jour de la liberté, comme il a été baptisé outre-Manche. La plupart des restrictions ont été levées, à commencer par le port du masque obligatoire, mais une partie de la population reste inquiète. La Grande-Bretagne, elle aussi, fait face à une quatrième vague très puissante, 50 000 cas détectés en moyenne tous les jours. Et le Premier ministre Boris Johnson lui-même est à l'isolement pour 7 jours parce qu'il est cas contact. Le système d'alerte a-t-il été défaillant ou trop lent, en tout cas en Allemagne, après ce qui constitue la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays? Les inondations ont tué au moins 165 personnes dans l'ouest de l'Allemagne. Le bilan est toujours provisoire. La protection civile est accusée de ne pas avoir prévenu les populations assez vite. Et la chancelière Angela Merkel a promis d'améliorer le système. Allez, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Les États-Unis sont plus écolos maintenant qu'à l'époque de Donald Trump. L'histoire va vous faire sourire. L'ancien président américain, au brushing toujours impeccable, avait estimé en son temps que le débit des pommeaux de douche aux États-Unis n'était pas suffisant pour laver sa crinière, il faut dire volumineuse. C'est très sérieux. Il avait donc annulé une décision de l'administration Obama qui avait été à l'origine justement de la mesure de limitation. Eh bien, Joe Biden, à son tour, a fait annuler la décision de Donald Trump. Karine Auten.
Oui, une bonne nouvelle pour l'environnement, certainement moins pour l'ancien président. Vous vous rappelez peut-être de cette petite phrase qui était entrée dans les annales l'été dernier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mes cheveux doivent avoir l'air parfaits. Parfait. Donald Trump expliquait pourquoi il allait contre une loi fédérale datant de 1992 limitant le débit délivré par un pommeau de douche à 9,5 litres d'eau par minute. Et l'administration Obama avait ensuite été plus loin en réduisant cela à l'ensemble des pommeaux reliés à une même douche. Donc si vous aviez une douche multijet, forcément les débits semblaient devenir rikiki. Mais jusque 2020, cela avait tout de même permis d'économiser 111 milliards de dollars en factures d'eau et d'énergie et surtout plus de 16 trillions de litres d'eau. Pour vous donner une idée, cela équivaut à 107 millions de baignoires remplies.
Merci beaucoup Karine Auten. On va faire une pause sur RTL, il est 18h17 et dans un instant donc l'invité d'RTL Soir est le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, qui va nous parler donc du temps de travail des militaires et du conflit qu'il oppose et qui oppose les armées françaises à la Cour de justice européenne. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
18h18 sur RTL et l'invité donc ce soir d'RTL Soir est Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors vous êtes avec nous ce soir parce que vous êtes inquiet. La ministre des Armées également, Florence Parly, l'a dit d'ailleurs publiquement. La Cour européenne de justice se mêle du temps de travail de nos militaires. Alors on va résumer l'affaire pour faire simple. L'instance juridique demande à la France que les militaires soient en partie soumis aux règles normales du droit du travail, sur le temps de travail, sur les astreintes, sur les jours de repos. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Or pour vous, pour la ministre, c'est impossible, voire dangereux. Pour quelle raison ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une opération militaire, c'est un tout. Il y a ceux auxquels on pense naturellement quand on parle d'une opération militaire, des militaires qui patrouillent dans nos gares pour l'opération Sentinelle, ou certains de nos militaires qui luttent contre les groupes armés terroristes au Sahel, ou un sous-marin nucléaire lanceur d'engin qui est en patrouille pour notre dissuasion nucléaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autour de ces opérations, qui sont le cœur de métier de ce que nous faisons au ministère des Armées, il y a tout un environnement assumé par des militaires qui n'est pas moins indispensable à la bonne tenue des opérations qu'autre chose. Je prends un exemple. Je parlais du sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui appareille de Brest pour aller faire une patrouille de 70 jours. Si la veille au soir de l'appareillage, on se rend compte qu'une pompe est cassée et que le sous-marin ne peut pas appareiller, eh bien aujourd'hui, ce sont des marins militaires qui sont à terre, qui vont réparer la pompe, ils vont y passer la nuit s'il le faut, mais la pompe sera réparée et le sous-marin nucléaire partira à l'heure dite. Si demain, la veille de l'appareillage, là aussi la pompe est hors de fonctionnement, mais nos militaires militaires ont fait 35 heures ou 48 heures et ne peuvent pas réparer, et donc il faut différer le départ en opération du sous-marin, c'est un vrai problème. Quand on décide d'une opération militaire en Afrique, par exemple d'un renforcement de nos effectifs à Barkhane, comme ça avait pu être le cas il y a quelques années, eh bien c'est toute une chaîne logistique qui se met en branle. Il faut prévoir des rations de combat, il faut qu'au point de la santé, nos militaires soient vaccinés, fassent des visites médicales. Et donc, nos médecins militaires, nos infirmiers, nos logisticiens doivent aussi faire des heures très nombreuses pour permettre que la mission se déroule bien. Et ce qu'introduit cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est finalement une armée à deux vitesses, les militaires qui sont en opération sur le terrain et puis les autres dont il faudrait compter le temps de travail. Mais la mission des forces armées, c'est un continuum. Nous avons besoin de tous nos militaires et donc c'est une décision néfaste.
Pourquoi est-ce qu'un électricien, un professionnel de l'armée, vous venez de citer les cas d'urgence, mais pourquoi il ne pourrait pas être soumis à des heures de travail encadrées, à des services d'astreinte? C'est une question de tableau de service, j'allais dire, comme dans beaucoup d'entreprises. C'est vraiment pas adaptable à l'armée, selon vous?
En temps normal, c'est ce que nous faisons. Il y a bien sûr des astreintes, il y a bien sûr des services, et nous ne demandons pas à nos militaires qui ne sont pas engagés en opération de travailler 100 heures par semaine. Néanmoins, si les cas l'exigent, il faut pouvoir avoir cette flexibilité, cette agilité, et c'est ce qui fait notre force. Regardez ce qui s'est passé ce week-end. Nous avons eu une demande de nos amis marocains pour un approvisionnement en oxygène liquide. Le Maroc fait face malheureusement à une recrudescence de la pandémie. Eh bien, en moins de 24 heures, nous avons déployé un avion militaire A400M avec des milliers de litres d'oxygène liquide à bord, qui a décollé ce week-end et qui est arrivé quelques heures après au Maroc. Ça n'aurait pas été possible si on appliquait strictement la directive du temps de travail. Il n'y a pas que le pilote de la 400M et son équipage. Il y a des contrôleurs aériens qui sont sur la base d'Orléans, qui sont des militaires. Il y a des mécaniciens qui vérifient que l'avion est prêt à décoller. Et donc cette mise en tension très subite, très réactive de l'appareil de défense, c'est ce qui fait notre force et c'est ce que cette directive sur le temps de travail, en tout cas cette décision de la Cour de justice, pourrait fragiliser.
Et vous citez par exemple un exemple, l'opération de secours pour Notre-Dame de Paris où les pompiers de Paris ont été engagés. Ils sont militaires. Là encore, pour vous, en adaptant complètement le droit du travail, une telle opération serait moins efficace en tout cas.
En tout cas, nous n'aurions pas la possibilité de faire des actions coup de poing qui nécessitent de travailler énormément pendant un temps très court si effectivement on appliquait strictement le code du travail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le statut de nos militaires demande qu'ils soient disponibles en tout temps, en tout lieu. C'est la condition du bon exercice des forces armées. Mais il y a, et c'est normal, des compensations à ces sujétions. Il y a des jours de permission, il y a une retraite qui arrive un peu plus tôt que pour des salariés. Tout cela est parfaitement normal. Et donc c'est un système équilibré et il est dangereux de vouloir toucher au bon équilibre de ce système, c'est ce que nous disons.
Précisons quand même que la Cour de justice européenne n'a pas décidé de se saisir du sujet d'elle-même en partant de rien. C'est un militaire slovène qui a fait une réclamation d'abord dans son pays parce qu'il n'était pas content de son temps de travail et c'est du coup la Cour de justice européenne qui a été obligée de statuer. Ce genre de demande, ça n'existe pas dans vos rangs sur le terrain? Les militaires ont intégré ce principe de disponibilité?
Les militaires sont extrêmement attachés à leur statut, à l'unicité du statut. C'est ce qui fait la cohésion de tous nos militaires. C'est qu'il n'y a pas les militaires en opération versus les militaires qui sont dans des bureaux ou sur des bases aériennes à réparer des pièces de rechange, par exemple. Ça n'existe pas. Nous formons un pack, nous formons un bloc cohésif. Vous savez, la France a une responsabilité particulière en matière de défense parce que nous sommes une puissance nucléaire, nous avons la dissuasion. Nous sommes le seul pays européen depuis le Brexit qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous avons de nombreuses opérations extérieures, que ce soit au Sahel ou au Levant, pour ne citer qu'elles. Et donc, la France a une responsabilité particulière en matière de défense, y compris dans le concert international. Et une des façons d'assumer ce rôle prééminent de la France, c'est d'avoir une flexibilité, une agilité, ce qui nous est permis aujourd'hui par le statut général des militaires.
Et du coup, qu'allez-vous faire? Que va faire la ministre? Que va faire le président de la République par rapport à cet arrêt de la Cour de justice?
On est en train d'étudier très en détail ce qu'implique cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va regarder avec nos experts et nos juristes comment ça se transposerait, ce que ça veut dire concrètement pour nos forces armées. Ce qui est certain, et la ministre Florence Parly l'a dit très clairement, c'est que si ça amenait à une catégorisation de nos militaires, au fait qu'il faille rogner sur certaines missions, eh bien c'est inacceptable. Nous verrons le cas échéant, nous n'en sommes pas là, mais en tout cas nous alertons sur le danger potentiel très important que fait peser cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous savez, quand le pays est passé aux 35 heures, les 35 heures n'ont pas été appliquées, et c'est bien heureux, aux militaires. Donc c'est un peu le même raisonnement qui aujourd'hui nous fait réagir.
Une dernière question sur un tout autre sujet, sur l'épidémie de Covid. Quelles sont les obligations qui s'appliquent aux militaires en termes de vaccination, et où en êtes-vous d'ailleurs de la campagne de vaccination en votre sein?
Alors, il y a une obligation pour les militaires qui sont déployés sur les théâtres d'opération, par exemple ceux qui vont au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, à être vaccinés contre le Covid. Donc tous nos militaires qui partent à Barkhane ou qui partent dans le cadre de l'opération Chamal au Levant sont aussi vaccinés ceux qui assument des missions de dissuasion nucléaire, donc tous nos marins qui sont embarqués sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins doivent être vaccinés. En termes de vaccination à l'échelle du ministère des Armées, nous avons réalisé 230 000 injections, donc la campagne est vraiment lancée à plein et fonctionne parfaitement, et nous vaccinons aussi des Français dans nos 8 hôpitaux d'instruction des armées et dans l'école de santé des armées à Lyon. Et nous avons monté ce qu'on appelait un peu trivialement des vaccinodromes, mais qui sont des pôles militaires de vaccination à Olivet, à Dijon, à Mérignac. Et ce sont 763 000 Français, c'est important d'être précis, qui ont bénéficié d'une injection réalisée par des militaires du service de santé des armées.
Merci beaucoup. Vous avez donc un rôle, on l'entend, central également face à l'épidémie de Covid. Merci Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, d'avoir été l'invité d'RTL Soir. À bientôt sur RTL. On va faire une pause et dans un instant, bonsoir Isabelle Morelli-Bosque.
Bonsoir tout le
monde. On est avec vous, on allume la télé au programme du soir, d'un mot.
Oh là là, c'est très varié, mais très varié. On va rire.
Alors à tout de suite Isabelle.
Olivier Bois. RTL Soir, Olivier Bois.
18h27 sur RTL, Isabelle Morelli-Bosque, on est donc avec vous à la télé ce soir. Le Tour de France, en tout cas, a été un succès sur RTL, évidemment. En fait, ouais. Mais quelles ont été les audiences sur France Télévisions?
Ben ça, les a, si j'ose dire, bien sûr, dopés pour en faire le tour et de France et du sujet. Notez que 3 800 000 fans ont en moyenne suivi les coureurs l'après-midi sur la 2, 340 000 de plus qu'en 2020, et 2 400 000 sur la 3. L'étape Rennes, celle du 14 juillet, a, elle, rassemblé 5 900 000 téléspectateurs, meilleure audience pour une étape depuis 2013. Bref, sur RTL comme sur France Télévisions, tout roule. Mais puisqu'on parle d'audience, j'aimerais évoquer celle d'une série qui est passée du sursis à la survie. On dit plus ?
Ben oui, évidemment, on attend que ça.
C'est comme j'imagine. C'est Camping Paradis, série très sympa que les ménagères boudaient depuis plusieurs mois, d'où une menace d'arrêt pour cette fiction créée en 2006 et diffusée de façon, faut bien le dire, totalement anarchique. Or, depuis 3 semaines, le camping fait le plein côté clientèle et côté audience. Les raisons ? Ben, c'est simple, hein, des dialogues plus nerveux, une diffusion de saison, c'est-à-dire estivale, en plus sans l'amour et dans le pré en concurrence, et un climat léger permettant de lutter contre des infos pesantes. Le bonus du jour, c'est une amende à lire, un vœu joyeuse, décidée à profiter et de la vie et de son très jeune petit ami ou grande dame de sa fille.
Elena, et si j'allais chercher des drinks pour tout le monde?
Bonne idée, mon amour. Ah, il est bel homme, hein?
J'avoue, il est trop canon. Vous pouvez vous arrêter toutes les deux?
Oh, mais enfin, pourquoi tu le prends comme ça?
Voilà. Donc, elle n'aura même pas besoin d'entrer dans l'eau pour faire des vagues, Amanda et Elena. Autre programme idéal l'été, Nicky Larson et le parfum de Cupidon sur M6, comédie déjantée, adaptée du célèbre manga jadis diffusé dans le Club Dorothée. C'est votre génération, ça.
Exactement,
Olivier.
Nicky Larson, je connais parfaitement.
On y retrouve le détective Nicky Larson, grand coureur de fond et de jupons. Le voilà engagé pour une mission difficile.
Monsieur Larson, mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle.
C'est n'importe quoi ce parfum. Si ça marche, je change de sexe.
Pour un plus grand ?
Voilà, j'adore cette phrase. Il va effectivement être au parfum. Voilà, c'est certes paillard, gaillard et grillard, mais surtout très réussi. C'est signé Philippe Lachaud et sa bande, dont Tarek Boudali, ex en famille sur la 6. C'est bien osé, c'est bien dosé et c'est bien dosé.
Ouais, Nicky Larson qui était un séducteur très lourd avec les femmes.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on l'aime.
Est-ce que vous avez autre chose en magasin, Isabelle?
Oui, deux. D'abord la 5 et les avions du bout du monde, ce soir en Amazonie avec Fernando Brezera, un pilote étonnant travaillant autrefois pour les trafiquants de bois et d'or. Aujourd'hui repenti, il lutte avec Greenpeace pour sauver et la forêt et ses habitants.
Je suis un des gardiens de la forêt.
On s'apprête à partir dans un endroit où les chercheurs d'or ne nous aiment pas vraiment. Ils m'ont menacé, moi et ma famille. Quand vous faites perdre de l'argent à quelqu'un, peut avoir des réactions très dangereuses. C'est mieux d'enlever tout ce qui est susceptible de nous identifier. On pourrait se faire tirer dessus.
c'est formidable, j'adore les arbres, donc je fais tronc commun avec lui. Et on termine à 22h55 sur Arte par un formidable documentaire consacré à Surf Sourire. Vous savez, cette nonne chantante belge en 1963, dont le tube Dominique resta plusieurs mois en tête des hit-parades du monde entier, les cinq continents, ce qui causa et sa gloire et son malheur.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant.
Son nom ne dira pas grand-chose aux jeunes générations. Pourtant, en 1963, elle avait réussi à détrôner Elvis Presley de la première place du hit-parade américain. Sœur Sourire, surnommée la nonne chantante, s'est suicidée dans la nuit de vendredi à samedi, à Vavre.
C'est un formidable documentaire. Un programme à éviter, The Wave sur TMC. C'est un film catastrophe sur une vague qui submerge une région. Franchement, des catastrophes naturelles, il y en a assez comme ça ces jours derniers. C'est pas la peine d'en rajouter.
J'avoue, vous avez un peu raison, effectivement, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Beaucoup, comme toujours, j'allais ajouter d'ailleurs. À demain, à la même heure, sur RTL, pour la télévision. Il est 18h31 sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et l'essentiel de l'actualité ce soir, c'est ce Conseil des ministres qui commence. Le gouvernement présente son texte de loi qui vise donc à mettre en place progressivement le pass sanitaire obligatoire, d'abord dans les lieux de culture, puis dans les bars, dans les restaurants. Autre mesure attendue, la vaccination obligatoire à partir de septembre pour les soignants, sous peine de sanctions et même in fine de licenciement. Le Conseil d'État a validé une autre mesure, celle de l'isolement obligatoire pour 10 jours pour toutes les personnes qui seront désormais testées positives à la Covid, avec là encore des sanctions possibles à la clé. Le gouvernement qui pourrait évoluer en revanche sur le niveau des sanctions contre les patrons de bars ou les patrons de restaurants qui feraient mal les contrôles justement du pass sanitaire dans leurs établissements. On avait évoqué 45 000 euros d'amende, ça pourrait être revu un peu à la baisse. Ce texte, une fois présenté en Conseil, sera débattu et adopté au Parlement d'ici la fin de semaine. L'urgence est là face à une épidémie qui flambe. On a été au-delà des 10 000 cas quotidiens détectés ces derniers jours, une augmentation de 80% en une semaine. Notez-le d'ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité d'RTL matin demain avec Stéphane Carpentier. Il répondra d'abord à ces questions à 7h40 et il restera avec vous les auditeurs d'RTL à partir de 8h20 pour répondre à toutes vos questions au 3210. La traque se poursuit à Gréolières dans les Alpes-Maritimes. 200 gendarmes dont le GIGN appuyés par des hélicoptères recherchent donc cet homme soupçonné de meurtre. Il aurait tué son ex-compagne à côté de Saint-Tropez. Il a tiré également sur un gendarme qui tentait hier soir de l'approcher. L'homme est armé et jugé dangereux. Et puis Éric Dupond-Moretti exclu de démissionner. Il a pris la parole pour la première fois aujourd'hui depuis sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Il continue à dénoncer un règlement de compte orchestré selon lui par les syndicats de magistrats.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Allez, l'un de nos rendez-vous de l'été maintenant, après un an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose cet été un regard vers l'avenir. Chaque jour, un entretien avec une personnalité, comment le Covid a bouleversé nos vies, comment préparer la suite également. Aujourd'hui, Guillemette Franquet rencontre Dorothée Gilbert, qui est danseuse étoile à l'Opéra de Paris.
Bonjour Dorothée Gilbert.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Plutôt bien, depuis que les spectacles ont repris, plutôt bien.
J'imagine que ça vous a terriblement manqué. Comment vous avez fait pendant cette période quand vous ne dansiez pas ?
Ça a été très long de ne pas pouvoir rencontrer le public pendant autant de temps, parce que finalement on se rend compte qu'on travaille et on prépare des ballets, mais la finalité c'est vraiment de pouvoir le présenter devant un public. Et là, toute cette année, on a préparé tous les ballets, on a fait les répétitions, les répétitions en scène, pour au final ne jamais le présenter devant un public. Puis il y a eu aussi la période du premier confinement où on était chez soi, où on devait s'entraîner et rester en forme à la maison, donc c'était vraiment quand même aussi un moment très particulier. Il a fallu garder la motivation. Je dansais, mais il n'y avait plus le but, il n'y avait plus de sens.
Est-ce que demain, vous allez danser différemment ?
Je pense que je vais profiter encore plus, parce que les moments ont été tellement rares, le partage avec le public a été si abstrait pendant toute cette période que chaque spectacle, c'est un moment que je ne tiens pas pour garanti finalement. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, les spectacles, c'était normal, c'était mon métier, etc. Maintenant, je me dis, c'est génial, il y a un public dans la salle, j'en profite au maximum parce que c'est pas sûr à 100% que demain, il sera toujours là. Ça m'a aussi fait prendre conscience que une année de perdu, c'est quand même beaucoup, parce qu'on a quand même des carrières courtes et un an de perdu avec le public, c'est énorme.
Ça vous a donné envie d'enseigner ?
Ça m'a donné envie d'enseigner, oui, c'est ce que je fais justement à travers Ballet Masterclass. J'ai vraiment eu envie de créer cette plateforme pour pouvoir partager ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années et donner des conseils qui auraient pu m'aider en tant que jeune danseuse. Surtout venant de Toulouse, il n'y avait pas autant internet et tout ça, donc j'avais pas accès au spectacle de l'opéra, aux conseils de quelqu'un de l'école de danse ou qui était passé par là. Donc c'est bien parce que ça me permet de voir un peu ce que je pourrais faire par la suite, parce que voilà, dans 4 ans je suis à la retraite. Bien croiser la jambe devant, le ventre bien serré pour faire développer devant, tomber, pas de bourrée, pirouette attitude en dehors.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain?
Bah justement toutes ces plateformes d'enseignement en ligne, ça je trouve que c'est vraiment super.
Et si vous deviez penser à un mot pour qualifier le Covid, vous me diriez quoi?
Retour aux sources peut-être, on va dire dans le côté positif.
Quelle source?
Le retour au basique, c'est-à-dire finalement de devoir rester chez soi, de se retrouver soi-même, de se retrouver avec sa famille. Après, je pense que ça a été un bon moyen de réfléchir aussi sur sa vie. Voilà, j'étais heureuse de passer tout ce temps avec ma famille, avec mon mari, avec ma fille, avec mes parents. Et j'ai aimé cette parenthèse où on était vraiment tous ensemble et on pouvait profiter de chaque instant.
Est-ce qu'il y a une musique ou un son qui vous a accompagné pendant cette période, qui vous a été cher?
Le son des oiseaux. Il y a plein d'arbres dans le jardin de mes parents et il y avait plein d'oiseaux qui chantaient tout le temps. Donc on était là, ah, mais tiens, là c'est la tourterelle, là c'est ceci avec ma fille, c'était rigolo. On a vraiment fait du coup une petite recherche sur les oiseaux pour savoir quel son appartenait à quel oiseau. Et je dirais que c'est ce son-là qui m'a accompagnée.
Merci beaucoup Dorothée Gilbert.
Merci à vous.
Et voilà les petits oiseaux et l'optimisme de Dorothée Gilbert, danseuse étoile à l'Opéra de Paris, que rencontre donc Guillemette Franquet. Alors on va faire une pause. Dans un instant, les petites histoires secrètes des Jeux Olympiques. On est évidemment à J-4 de la cérémonie d'ouverture à Tokyo, mais on part au JO de Los Angeles 1984. Dans un instant, Pierre Quinon était sacré à la perche. Il avait voulu voir la mer, la baie californienne, en secret. Petite fugue discrète dans un instant. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Olivier Bois.
Et donc on vous raconte ce soir et tous les lundis sur RTL les petites histoires secrètes des Jeux Olympiques. On va donc partir en 1984. Le perchiste français Pierre Quinon décroche cette année-là la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Bonheur évidemment intense pour le sportif, mais qu'il a voulu fêter en s'offrant une petite virée en toute discrétion sur la magnifique baie californienne. Après sa médaille, Pierre Quinon voulait voir la mer. C'est un reportage de Jean-Michel Rascol.
Et les petites histoires olympiques, Jean-Michel Rascol sur RTL.
Enfin de l'or au-dessus de la barre pour un perchiste français.
Avec un saut à 5,75 m au premier essai, Pierre Quinon, le perchiste aux boucles noires, souffle le titre en 1984 aux Américains. Un bonheur intense dans le Coliseum de Los Angeles, mais une envie de grand air, presque d'aventure. Il s'est fait une promesse avant le concours. En cas de médaille, il veut s'échapper, filer sur les routes en décapotable, en compagnie de son entraîneur, Jean-Claude Perrin. Ainsi, après le contrôle antidopage, le champion va s'éclipser, disparaître des radars officiels, direction l'océan. Jean-Claude Perrin, 85 ans aujourd'hui, n'a rien effacé.
Il faut voir quand même ceci à l'échelle américaine et de la ville de Los Angeles, un ciel étoilé. Une température, on était en short, on avait pas remis les survêtements dans la voiture, assez peu de monde sur le freeway, et puis une sorte de magie entre nous deux. Il était émerveillé, c'était son rêve qui était arrivé. Et nous étions tous les deux, ça roule, tout d'un coup en allant vers les plages, et il me prend le bras, en regardant le ciel, il me dit « ralentissez ». Parce que j'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. J'étais pétrifié, j'avais les larmes aux yeux. C'était d'une pureté, j'en frémis encore maintenant. Les images que je regarde, en dehors des sauts vainqueurs, c'est celle-ci. L'immobilité du temps décrite par un athlète qui vient de gagner les Jeux. Les Jeux Olympiques, c'est ça. Un moment exceptionnel, dans un cadre exceptionnel. Il était là.
Deux heures de fuite, les phares éclairent la nuit chaude, puis un retour vers la maison que les perchistes français louent sur les hauteurs de West Hollywood. Quinon est heureux, avec Perrin il va conduire ses camarades en ville pour un dîner mémorable, Jean-Claude Perrin.
C'est ensuite que nous sommes descendus au Dôme, établissement qui ne recevait que la Jet Set et puis les gens qui avaient leur nom au générique des films. On a dîné, on n'avait pas terminé qu'on voyait les premiers joggeurs passer sur le boulevard.
It's not time to make a change, just relax, take it easy.
Aujourd'hui, le perchiste qui scrutait le ciel n'est plus là. Son nom est inscrit pour toujours au Panthéon olympique. Premier français, médaille d'or à la perche. Si beau, si fort, malheureusement tourmenté.
Merci Jean-Michel Rascol pour ces petites histoires des Jeux Olympiques. On vous retrouve demain. D'ailleurs, toujours à Los Angeles, 1984, l'histoire de la coupe de cheveux ratée du basketteur français Richard Dacoury. À demain. Et vous la reconnaissez, cette petite musique, c'est l'heure de passer la parole à Stéphane Carpentier. On retrouve toute l'équipe de Laissez-vous tenter en mode estival, avec Vianney d'ailleurs.
C'est la version soleil estivale de Laissez-vous tenter ce matin. Il y a musique et lecture, s'il vous plaît, avec Bernard Lehu et Steven Bellery. Bonjour les garçons.
Bonjour.
La musique, la priorité, c'est l'un des albums à succès de la saison écoulée. N'attendons pas.
N'attendons pas.
Troisième album de Vianney, en route vers les 300 000 exemplaires. Steven, Vianney vous a ouvert les portes de son studio d'enregistrement en banlieue parisienne, là où sont nées ses nouvelles chansons.
Oui, dans une petite maison discrète de deux étages, nichée au fond d'une impasse de Clichy. Plancher clair, mur jaune au rez-de-chaussée. Une bibliothèque, une table basse où est posé le livre de Fabrice Santoro. Dans un coin, un piano. La partition d'un morceau intitulé « La fille du Sud » y est posée. Le chanteur de 29 ans s'assoit devant son piano droit.
Piano qui a un peu plus de 100 ans, puisqu'il est de 1917, c'est un Steinway que j'ai mis des mois à trouver. Et on a enregistré tous les pianos de l'album avec ça. En fait, si tu veux, la pièce du piano, qui est aussi le salon, la cheminée, tout ça, et FIFA, c'est relié à la cabine, tu vois, et si t'as les petits branchements. Depuis le studio, je peux enregistrer le piano qui est là, quoi. Bien.
Il est ouvert ce piano, pourquoi ?
On voit rarement les entrailles d'un piano. Pour ces pianos, c'est des blocs de bois noir. Mais à l'intérieur, si vous regardez bien, on est souvent surpris par la beauté de l'intérieur. Quand je mets mes micros devant, je trouve que le son est plus pur. Et surtout, quand je dis pur, c'est naturel. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on entende, tu vois, les bruits de pédales quand je bouge, les marteaux quand ils tapent dessus, les doigts sur les touches. J'essaye vraiment de garder tout ça et ces bruits de pédales. Donc je mets même des micros sous le piano pour essayer de choper ces bruits-là.
Il y a quelques photos, on croise les visages d'Aznavour, Gréco, Hallyday, on emprunte un escalier escarpé, une affiche de Pierrot le Fou avec Bébel est collée à une porte, tout est parfaitement rangé. Il y a des guitares partout, un micro, un ordinateur et un écran immense.
On est dans mon atelier, mon studio, l'endroit où j'ai passé énormément de temps ces derniers mois. Non, c'est pas si grand ce studio, c'est une petite maison à Clichy, dans laquelle j'étais en coloc avant. Et j'ai vécu 2 ans de bonheur, de nuit blanche à jouer à FIFA, à faire dormir les uns sur les autres, parce qu'il y avait souvent pas mal de gens ici. Donc c'est la maison bleue, elle n'était pas bleue au début cette maison, je l'ai peinte en bleu parce que j'aime Maxime Le Forestier et sa chanson. Puis j'ai tout cassé, j'ai fait un studio où il y a du bleu, il y a du bois, il y a ce canapé jaune sur lequel t'es assis, qui me fait du bien à la tête. Quand je dois me poser et faire une sieste, c'est mon antre.
Une antre pas si sombre, 2 petites fenêtres à triple vitrage donnent sur la ruelle.
Il y a un sous-sol, j'avais pensé à le faire là, mais moi je voulais la lumière du jour, donc c'est vrai que c'est un studio, les gens savent pas, mais en général on se retrouve au sous-sol dans les studios. Et c'est pour ça que les rats de studio sont vraiment tout blancs. Là je vois la lumière du jour, c'est plutôt pas mal.
Vous avez quand même insonorisé la pièce, je vois qu'il y a des morceaux de bois au mur, les fenêtres ont un double vitrage même. Ça c'est important pour le son ?
C'est pas tant pour le son, mais c'était franchement pour arrêter de saouler mes voisins. Mon voisin que j'aime beaucoup, beaucoup, qui habite juste à côté. Et là, c'est sa chambre, juste à côté du stud. Quand je le faisais à l'arrache, quand j'enregistrais des choses ici, il en pouvait plus, franchement. Et il dit, j'en peux plus, tu répètes le même truc en boucle et tout. Quand on enregistre, c'est ça qui se passe. Et maintenant, il est super content. Il n'y a rien qui filtre.
Vous allez pouvoir lui offrir un disque.
Ah ouais, au moins, il aura bien mérité.
Minimum. Il faut dire que Vianney a passé de longues journées, Steven, confiné dans ce studio. Hein.
Oui, car le chanteur de Je m'en vais a réalisé en solo les 11 morceaux. Il a tout enregistré dans cette maison, ses voix, les guitares. Quelques copains musiciens sont passés, même les cordes ont été immortalisées dans la pièce de 16 mètres carrés. Un album sur lequel Vianney bûchait des potromines.
Très tôt, c'était généralement 7h, 7h30. Et puis je travaillais jusqu'à 21h, un truc comme ça. Et je faisais toujours une sieste la journée. C'est obsédant, un album. Vraiment, c'est obsédant, surtout quand on réalise, qu'on écrit vraiment chaque ligne, chaque mot, chaque note. Je dois dire que c'est des mois de douleur. Hein. Mais c'est pour un truc qui rend tellement heureux. J'arrivais au studio, j'étais heureux vraiment tous les matins. Pourtant, je savais que j'étais physiquement mort, quoi. Quand je l'ai rendu, j'ai même réalisé vraiment que c'était comme un voyage un peu traumatique. Hein. Quand j'ai écouté l'album tout fini, vraiment, mixé et masterisé pour la dernière fois, quand j'ai compris que c'était fini, c'était ici il y a 10 jours, et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer, comme si j'avais vraiment morflé pour en arriver là. Et donc je sais que c'est des choses qui tordent un peu l'esprit, le mental pendant des mois, et le physique. Justement, je veux pas qu'on ressente la sueur quand j'enregistre, et c'est bien ça qui est difficile, c'est qu'à la fin, à l'écoute, tout soit facile et évident, plus évident que ce que j'ai vécu.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens.
Merci pour ça, extrait du troisième album de Vianney, déclaration d'amitié à un sans domicile fixe qu'il a rencontré lors d'une maraude et dont il est devenu très proche. N'attendons pas est un disque où Vianney chante ce qu'il aime et comme il l'aime.
Faire vraiment ce que j'ai au fond de moi, très axé chanson française, très axé sur le texte, le bois dont je suis fait et qui est celui de l'acoustique, de la guitare, de la vibration. Donc c'est un album qui est très organique, que j'ai voulu très pur et très épuré.
Il y a combien de guitares autour de nous ?
Chaque guitare me chante une mélodie différente, puisqu'elles ont toutes un son, une voix différente. Là, il y en a combien ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis il y en a dans les tiroirs là-bas, il y en a 2, 11, 12, il y en a 2 en bas, 13, 14, il y en a 2 en haut, 15, 16, et puis il y en a quelques-unes chez moi. Et les guitares, elles se retrouvent l'une après l'autre sur l'album pour des raisons bien précises. Il y a une guitare que j'utilise énormément, qui est la première que j'ai derrière là, qui est celle de mon père en fait. Et officiellement, il me l'a offerte cet été. Il a dit, bon, ça fait des années que tu me la piques et tout, elle est à toi.
Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main.
Papa, c'est l'un des tubes de l'année à retrouver dans le troisième album de Vianney qui s'appelle N'attendons pas. Il est toujours disponible. Il chante ce soir au parc du château de Solliès dans le Var, demain à Saint-Raphaël, samedi à Fontainebleau et dans tous les Zéniths de France dès le 15 octobre.
Le monsieur cartonne. Il est hyper sympa et en plus il est très FIFA. Et Bernard est rassuré, il a même une bibliothèque dans sa petite maison de Clichy. Bernard, vous nous ouvrez votre bibliothèque idéale de l'été avec à tout seigneur, tout honneur, le lauréat du Grand Prix RTL Lire 2021, Jean-Baptiste Andréa, et son roman Des Diables et des Saints.
Une éblouissante réussite. Pourquoi Joe, un vieux pianiste interprète virtuose de Beethoven, qui aurait pu mener une brillante carrière dans les plus grandes salles du monde, s'obstine à jouer dans les gares et les aéroports, vous savez, sur ces pianos mis à la disposition du public? Eh bien, la réponse à cette énigme est à chercher dans un sinistre orphelinat, les confins où Joe a vécu adolescent après la mort accidentelle de ses parents. Des Diables et des Saints est né de deux rencontres faites par l'auteur Jean-Baptiste Andréa.
Un lecteur qui est venu me trouver pour me parler de son enfance dans un orphelinat. Les quelques bribes de cette enfance m'ont profondément marqué et je me suis dit comment je peux rendre hommage à cet échange et à la confiance que m'a fait cet homme qui ne me connaissait pas. Et puis bon, j'ai laissé reposer la chose et un an et demi plus tard, dans une gare au petit matin, j'ai vu un piano pianiste qui jouait sur un piano public. Et tout d'un coup, j'ai eu le déclic et j'ai sorti un papier de ma poche, j'ai commencé à écrire ce roman. Tout d'un coup, l'apparition dans ma tête de toute cette histoire et de ce que je voulais raconter. Et je me rappelle bien du moment. Et je peux même vous dire que c'est la gare de Clermont-Ferrand qu'il était 6 ou 7 heures du matin.
Et nous voici plongés dans le quotidien des confins. L'orphelinat dirigé par l'inflexible abbé Sénac, secondé par un surveillant général sadique surnommé Grenouille. Discipline de fer, brimade et privation, dont la plus douloureuse, celle de l'amour d'une mère et d'un père.
Il y a quelque chose dans ce mot qui nous évoque presque le 19e siècle, comme si les orphelins, ça n'existait plus. Même le mot orphelinat a quelque chose d'extrêmement démodé. Or, il suffit d'y réfléchir, on se dit bien sûr, il y a des enfants qui grandissent sans parents, des enfants qui grandissent dans des familles d'accueil, et ça c'est bien, des enfants qui grandissent dans des foyers. Et tout d'un coup, ce sujet-là, ces invisibles, ça me semblait... J'ai voulu les rendre visibles.
Alors justement, Bernard, quelle histoire imagine Jean-Baptiste Andréa dans son orphelinat des Pyrénées ?
Eh bien d'abord, celle d'une amitié comme arme de résistance contre les adultes. Le vieux pianiste Joe se souvient des nuits clandestines passées avec La Fouine, Sous X, Momo, Sinatra ou Danny au sein de leur club secret, La Vigie. Les ados rebelles écoutent la radio, découvrent à quoi ressemble le sexe d'une femme dans l'encyclopédie dérobée à la Bessénac et fomentent une évasion, un épisode d'anthologie, vraiment le grand moment du livre.
Et je suis arrivé épuisé en testant, en racontant cette histoire à mon épouse pour voir, je savais plus ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et tout d'un coup, elle a fondu en larmes alors que je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, eh ben, apparemment, ça marche. C'est que j'ai pas travaillé pour rien. Donc c'est un moment qui a une valeur en plus symbolique pour moi et dont je me souviendrai parce que c'est le moment où je me suis dit que le roman se tenait debout.
Alors il y a que des garçons jusqu'à présent dans ce roman, Bernard. Croise-t-on des personnages féminins dans des diables et des saints ?
Ben, je vous rassure Stéphane, bien sûr il y en a et notamment la belle et inaccessible Rose. D'où vient-elle ?
J'adore Rose.
Déjà votre réaction.
Rose, oui, Rose c'est mon premier amour. Rose, j'écris toutes les filles dans mes romans, c'est mon premier amour. D'abord je voulais que ce roman, outre le côté dénoncé de l'enfance maltraitée, soit un roman d'aventure et que ce soit aussi romantique. Voilà, c'était très important pour moi. Il n'y a pas de vie sans histoire d'amour. Je voulais en écrire une qui me semblait belle. Et voilà, donc là en l'occurrence, cette histoire va jalonner la vie de Joseph, le héros du livre.
Et je vous laisse le plaisir de découvrir ce qui a pu se passer entre Rose et Joe. Émotion garantie, comme je vous garantis également qu'une fois le livre refermé, tous les personnages de ce merveilleux roman vous accompagneront longtemps. Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa, Grand Prix RTL Lire 2021, et publié chez l'Iconoclaste, une lecture indispensable de votre été.
On en prend bonne note. Merci Bernard Lehu. On va faire une courte pause sur RTL. On va retrouver Stéphane Carpentier qui sera avec Laurent Marsic qui lui célèbre les 100 ans de la radio cet été. A tout de suite sur RTL.
Les 100 ans de la radio sur RTL.
C'est un retour vers le passé, les 100 ans de la radio, riche en archives. Laurent, sur la radio et le cinéma, la semaine dernière, la radio et le Tour de France. Alors ce matin, la radio au cœur de l'histoire en mai 68.
L'année 1968 va évidemment être marquée par ce que l'on a appelé les événements, les révoltes ouvrières et étudiantes. Face à l'ORTF, la radio publique, les deux radios privées, dont RTL, ont prouvé non seulement leur savoir-faire, mais aussi leur liberté. Elles n'étaient pas, ou en tout cas beaucoup moins muselées, par le pouvoir politique. Quand la radio publique diffusait les nuits d'émeute en différé, les radios privées étaient en direct.
Attention, attention François, il y a un pavé.
C'est sur ces radios privées que les Français ont donc suivi les événements de mai 68. Mais entre les manifestations et les interventions politiques, les radios ont aussi dû faire face à d'autres problèmes plus terre à terre. C'est ainsi qu'à RTL, pendant plusieurs jours, les émissions qui accueillaient les vedettes de la chanson étaient privées d'invités.
Bien, vous avez déjà deviné que nous sommes dans le petit studio, sans public, sans vedettes, sans orchestre, sans musiciens, mais avec Nicole, Dieu merci.
RTL Non-Stop, le grand musical radiophonique, se transformait alors en émission de dédicace.
Allô, Philippe Bouvard ?
Oui, bonsoir mademoiselle.
Bonsoir monsieur.
Quel âge avez-vous mademoiselle ?
J'ai 16 ans.
Vous avez 16 ans, vous êtes en grève aussi ?
Non, c'est parce que j'ai travaillé à cause du métro.
Ah, vous voyez, il y a toujours quelque chose. Hein. On est plein de bonne volonté, puis au dernier moment, hop, la machine est grippée.
Les auditeurs avaient le droit de choisir le nom d'un artiste qu'ils souhaitaient écouter, mais pas le titre.
Quelle est votre vedette préférée ?
C'est Claude François.
Tout simplement pour laisser le temps à l'assistant de Philippe Bouvard d'aller chercher le bon disque dans la discothèque.
Il ne s'agit pas de demander un disque, parce qu'évidemment, nos services spécialisés sont un petit peu débordés. Il y en a des dizaines de milliers qui sont en magasin et il est difficile de les tirer comme ça en une minute pour les apporter à la régie.
Et puis parfois, il y avait des loupés. Philippe Bouvard avait pourtant précisé émission musicale.
Allô, bonsoir monsieur.
Bonsoir, monsieur Bouvard.
Qu'est-ce que vous voudriez avoir, monsieur Rose?
Je voudrais écouter un discours du général de Gaulle.
Ah oui, on va.
Un étage plus bas, la rédaction d'RTL avait été transformée en véritable camp de fortune. Certains journalistes préférant dormir sur place pour ne rien louper des événements. L'animateur Jean-Bernard Hébé le racontait aux auditeurs un soir de mai 68.
Si vous pouviez voir ce qui se passe dans les couloirs et surtout dans la salle de rédaction, tout le monde est là, tout le monde est à son poste auprès des téléphones, il y a des sandwichs partout, des bouteilles de bière, enfin on campe. Vraiment, on vit l'actualité depuis plusieurs jours.
Jean-Bernard Hébé qui avait été missionné pendant plusieurs soirées par la direction pour assurer une émission très particulière. Le soir, de 21h jusqu'à minuit, baptisé Message Service.
Nous recevons de toutes parts depuis ce matin des appels de certains de nos auditeurs se trouvant, du fait des difficultés de déplacement et de communication résultant des événements, dans une situation personnelle particulièrement dramatique. Soit qu'ils ne puissent joindre d'urgence quelqu'un de leur famille, soit encore qu'ils se trouvent devant un problème angoissant à résoudre. Alors à tout cela, bien nous pensons, RTL pense qu'il faut leur rendre service. Nos messages services vous permettront toutes les 10 minutes environ d'apprendre une nouvelle urgente vous concernant. Mademoiselle Hélène Vodnitsky est priée de téléphoner d'urgence à sa mère, tête boue, 50-76.
Ce sont ainsi des centaines de messages qui arrivaient pendant cette période à RTL, les auditeurs étant pour certains privés de téléphone ou en tout cas ne pouvaient pas se déplacer.
Pour monsieur Vignon en Bretagne, si les transports ne fonctionnent pas samedi, René viendra te chercher. Monsieur Delepine demande à sa femme qui attend un enfant de ne pas s'inquiéter, il fait le piquet de grève cette nuit.
Ce mois de mai 68 a certes été le mois de la colère, mais aussi celui de la débrouille et les radios ont tout fait pour aider les auditeurs.
Merci Laurent Marsic, merci Stéphane Carpentier. On vous retrouve demain évidemment. Et on retrouve d'ailleurs toutes les chroniques d'RTL sur le site RTL.fr et sur l'application également. La petite musique de la météo, Claire Delorme. On vous retrouve avec que des bonnes nouvelles. L'été, la chaleur, le soleil pour demain, tout va bien.
Exactement, et ça va se maintenir toute cette semaine avant donc l'arrivée du week-end. En effet, une dégradation orageuse est à prévoir, mais pas avant vendredi soir. En attendant, le soleil va régner en maître pour demain matin sur quasi la totalité des régions, avec quand même quelques bandes nuages bas qui vont s'accrocher sur les côtes landaises et du Pays Basque. Également en direction de la région Rhône-Alpes, de la côte normande et dans le Boulonnais. Mais sinon, dans l'après-midi, le beau temps se maintient avec quand même le développement de quelques cumulus de beau temps. Un ciel un petit peu plus variable, principalement pour les régions au nord de la Seine. Et puis l'instabilité qui va commencer à se développer là encore en direction du sud alpin, avec quelques développements nuageux qui pourront conduire à un coup de tonnerre qu'on retrouvera aussi en direction des Pyrénées. Pour les températures, en matinée, elles seront comprises de 14 à 19 degrés du nord au sud. Il fera un petit peu plus du côté de la Méditerranée. À partir de 22 degrés, donc là, les cigales vont pouvoir chanter de bon cœur. Et oui, car je ne sais pas si vous êtes au courant, Olivier.
Ça, on vous a mis des cigales.
Oh, c'est magnifique, merci beaucoup à Greg. Parce qu'en effet, pour la petite anecdote, toujours des bruits de cigales. Eh bien, les cigales, en fait, elles commencent à chanter à partir de 22 degrés. Et en fait, plus il fait chaud et plus elles chantent fort. D'ailleurs, on ne dit pas qu'elles chantent, on dit qu'elles symbolisent, car elles ont des cymbales tout simplement au niveau des abdomens. Donc, en fait, c'est un très bon indicateur de température. Elles vont chanter encore de bon train dans l'après-midi, car on pourra atteindre des pointes de 31 à plus de 35 degrés dans le sud, alors que la chaleur sera quand même beaucoup plus modérée au nord, entre 24 et 29 degrés.
C'est incroyable tout ce que vous savez sur les cigales en tout cas. Et l'été va rester toute la semaine, Claire ?
Oui, toute la semaine, il se maintient toute la semaine, donc vraiment, il faut en profiter, sortez les chapeaux, les lunettes de soleil, la crème solaire, on s'hydrate aussi, c'est très important. Et je vous le rappelle, c'est à partir seulement de vendredi soir qu'arrivera une dégradation orageuse par l'ouest.
N'en parlons pas pour l'instant. Merci beaucoup Claire Delorme. On vous retrouve tout à l'heure et il est 19h dans un instant sur RTL. À tout de suite.
À très bientôt.
D'Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Face à la progression alarmante de l'épidémie, le Conseil d'État donne son feu vert aux nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron.
Passe sanitaire, vaccination obligatoire des soignants. Le texte doit être adopté dans la foulée par le Conseil des ministres. Dans ce journal également, l'Angleterre va-t-elle faire marche arrière alors que le gouvernement britannique vient de supprimer toutes les mesures sanitaires? La gaffe d'une contrôleuse aérienne qui a bien failli provoquer un drame sur les pistes de Roissy. Un coup de chaud pour les vacanciers bretons et puis des athlètes français en sueur avant même l'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo.
Et après votre journal Le Club de l'été avec Julia Molcou qui reçoit ce soir le chef étoilé Alain Ducasse.
RTL Soir.
Une hausse de l'épidémie stratosphérique, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, tout particulièrement dans les Pyrénées-Orientales, avec l'épidémie qui flambe également en Catalogne, en Espagne, pour tenter de limiter la propagation du virus. Les autorités multiplient les mesures sanitaires. Difficile de s'y retrouver pour les touristes qui se font tester sur une aire d'autoroute à la frontière espagnole. Benjamin Pelsi.
Encore beaucoup de doutes chez les Français qui partent en Espagne. Faut-il un test négatif ou son pass sanitaire? La réponse est oui entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne. Bretagne. Marie a bien fait de s'arrêter pour se faire dépister.
Le souci, c'est que dans un premier temps, on nous a dit oui, après on nous a dit non, et là, il s'avère qu'il faut absolument un test pour entrer, donc c'est un peu confus tout ça, mais heureusement, on a trouvé de quoi faire ici au dernier moment, enfin prête pour partir en vacances.
Les changements fréquents des règles à la frontière donnent même le tournis aux membres de la Fédération française de secourisme et de sauvetage qui assurent les tests.
Entre la frontière, ce qui décide en Espagne et ce qui se décide en France, c'est un peu difficile de savoir.
Je suis presque autant perdue que des fois des recommandations. Si on n'a pas écouté tel jour, c'est plus la même chose.
La famille de Daniel, elle, revient d'Espagne. Le test côté catalan, ils ont bien essayé de le faire.
On s'est arrêté juste avant la frontière, là, dans le grand centre commercial. Il y avait, je dirais 2 heures de queue en plein soleil. Donc on s'est dit, on va prendre le risque. Ils se rendent compte des policiers, on va leur expliquer que c'est compliqué de se faire tester en Espagne.
Mais finalement, pas de contrôle à la frontière. L'équipe de testeurs de Cyril était donc un peu le dernier rempart contre l'épidémie.
C'est important dans les deux sens, quand ils reviennent ou qu'ils partent du défunt de la France, pour savoir s'ils le sont porteurs ou non, justement pour éviter la propagation en France comme en Espagne.
Ce matin, une trentaine de personnes sont venues se faire dépister sur cette aire d'autoroute.
Benjamin Pelcy dans les Pyrénées-Orientales pour RTL.
Le Conseil des ministres a commencé il y a une demi-heure maintenant pour préparer la mise en place notamment du pass sanitaire, Alexandre.
Nécessaire à partir de mercredi pour accéder notamment au cinéma, au théâtre, au musée ou dans les parcs d'attractions. Il sera ensuite étendu au restaurant, au bar et aux centres commerciaux. Les ministres doivent adopter ce soir le projet de loi. William Galibert, pour l'instant, le Conseil d'État a donné son feu vert avec quelques réserves.
Oui, c'est ça. Le Conseil d'État, en fait, c'est la maison qui dit au gouvernement si ces textes de loi ont été bien ficelés. Et d'après les informations de RTL, Emmanuel Macron peut respirer ce soir parce que ce Conseil d'État a bien validé l'idée de l'extension du pass sanitaire. Il demande juste de préciser un peu mieux les choses pour l'accès aux centres commerciaux, les principes de vaccination obligatoire pour les soignants et d'isolement de 10 jours pour les malades ont aussi été confirmés. Alors deux choses maintenant. D'abord, les opposants au texte vont devoir se tourner vers le Conseil constitutionnel pour le contester. Et puis ce texte, il va désormais évoluer à l'Assemblée et au Sénat. Quelles amendes pour les commerçants qui ne joueraient pas le jeu, qui ne voudraient pas contrôler les passes sanitaires? Quel calendrier exact pour l'application de ces nouvelles règles? Il y aura des marges de manœuvre pour les parlementaires, mais avec un temps très serré, puisque l'espoir, c'est que tout puisse être bouclé à la fin de la semaine.
William Galibert pour RTL.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité d'RTL Matin demain avec Stéphane Carpentier à 7h40. Il restera en studio avec vous, les auditeurs d'RTL, à partir de 8h20 pour répondre à toutes vos questions. Deux pays donc, deux politiques, la France d'un côté et l'Angleterre de l'autre, qui vient de lever aujourd'hui ses dernières restrictions.
Et pourtant, les contaminations sont également en hausse de l'autre côté de la Manche. Mais les Anglais peuvent désormais retirer le masque même à l'intérieur. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes à tous sans aucune contrainte et ça pourrait ne pas durer. Le Premier ministre Boris Johnson s'est exprimé cet après-midi. Lui-même, il est à l'isolement, il est cas contact. Il a donné l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière.
Écoutez, ça a l'air d'être le pas de danse de l'été. En effet, les boîtes de nuit ont rouvert hier soir sans condition aucune à l'entrée. On a pu revoir des pistes de danse pleines à craquer comme dans le monde pré-pandémie, mais ça ne durera que le temps de la période estivale, a annoncé Boris Johnson ce soir. Aujourd'hui, les nightclubs sont encouragés à utiliser un pass sanitaire. Bientôt, ce sera obligatoire.
Je m'inquiète aussi au sujet des boîtes de nuit, mais je n'ai pas envie d'avoir à les fermer. Alors je vous préviens déjà qu'à partir de la fin septembre, quand toutes les personnes de plus de 18 ans auront eu l'opportunité d'être entièrement vaccinées, un pass sanitaire complet sera obligatoire pour rentrer dans un nightclub ou dans tout autre endroit où la foule se rassemble. La preuve d'un test négatif ne suffira plus.
Il y a encore 34% des 18-30 ans, soit 3 millions de personnes qui n'ont reçu aucune dose d'un vaccin, même s'ils y ont accès. Les jeunes sont la population la plus frileuse face au vaccin et Boris Johnson a donc décidé, comme il l'a dit, de conditionner les plaisirs de la vie à la vaccination.
Marie Billon pour RTL. À Gréolière, dans les Alpes-Maritimes, les autorités appellent le fugitif à déposer les armes et à se rendre. Cet homme d'une trentaine d'années est soupçonné d'avoir tué une ancienne compagne. Lors d'une première tentative d'interpellation, il avait ouvert le feu sur les gendarmes sans les blesser. 200 membres des forces de l'ordre et du GN sont désormais mobilisés sur place.
RTL Soir, Olivier Bois.
19h06 sur RTL, la suite de votre journal Alexandre Le Saint-Aignan avec une histoire qui fait froid dans le dos. Un drame évité de justesse à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, c'était l'année dernière.
Oui, il y a tout juste un an, on vient seulement de l'apprendre dans un rapport du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Arnaud Touche, 2 avions ont failli se percuter. C'est une contrôleuse aérienne qui a confondu la droite et la gauche, une erreur heureusement rarissime.
Absolument. Au petit matin, un Boeing 787 en provenance de New York est en approche pour atterrir sur la piste 09 gauche, comme cela est prévu. Mais la tour de contrôle demande à l'équipage d'atterrir finalement sur la piste 09 droite. Les pilotes américains sont surpris, demandent confirmation, mais elle n'arrivera jamais. Le commandant de bord respecte donc l'ordre et s'aligne sur la piste de droite pour atterrir. Problème, la contrôleuse donne aussi l'autorisation à un Airbus d'EasyJet de s'aligner sur la piste 09 droite. Et c'est l'équipage d'EasyJet qui, en tournant la tête, aperçoit au loin le Boeing de United Airlines qui se dirige tout droit sur leur piste. À la radio, le pilote demande immédiatement au Boeing de remettre les gaz, ce qu'il fera. La contrôleuse expliquera que sa langue a fourché et qu'elle était focalisée sur la piste 09 droite, car un avion d'Air France venait d'y atterrir à cause d'un problème technique. Le bureau d'enquête et d'analyse détaillera que le manque de pratique de la contrôleuse lié à la diminution du trafic pendant la période de crise sanitaire est l'un des facteurs qui a mené à cet incident.
Le spécialiste aviation de RTL, Arnaud Touche.
On va parler maintenant de ces inondations qui ont touché l'ouest de l'Europe. Le bilan s'est encore alourdi. 196 morts.
La plupart en Allemagne, 165. Plusieurs journaux allemands ont pointé du doigt les défaillances du système national d'alerte catastrophe. Le gouvernement affirme de son côté qu'il n'y a pas eu de problème technique, tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer son système. En Belgique, là, on compte 31 morts. Un jour de deuil national aura lieu demain. Valentin Boissat, vous êtes à Pépinster. C'est l'une des communes les plus dévastées par ces inondations. La plupart des maisons de retraite avaient rapidement dû être évacuées dans cette ville, mais ça n'a pas toujours été possible. Dans l'une d'entre elles, la situation est ce soir encore très compliquée.
Oui, les résidents ont les yeux collés aux fenêtres. Ils observent le balai des camions de pompiers tous les jours. Leur rez-de-chaussée a été inondé, mais impossible d'évacuer 120 personnes. Certaines ont des lits médicalisés, alors le quotidien est chamboulé. Francine a le droit de sortir.
On n'a même pas évacué la maison de retraite. On n'imagine pas, on vit sans eux. On est vraiment coupé du monde. Les âgés, je sors de l'hôpital. C'est pas évident.
Des groupes électrogènes sont installés au rez-de-chaussée. Il faut fournir de l'oxygène à certains. Solutions de fortune, mais il n'y avait pas le choix. Selon Alain, il fait partie de la coordination de la ville.
Pour l'évacuation, c'était impossible. Il y a des grabataires dedans, donc ça aurait été impossible. Il y a des traiteurs à aliments, les résidents.
Vous distribuez quoi, là, du coup
Le riz avec le viande.
Ça sent bon.
Bonjour, ça vous fait plaisir?
C'est sûr que ça me fait plaisir. Parce que nous autres, on ne sait pas cuisiner. Il y a des bénévoles qui distribuent à longueur de journée. On peut même ne mourir de faim ni de soif. Ça a l'air très beau.
Bon appétit.
Merci beaucoup.
À Theux, la ville voisine, la maison de retraite n'arrivait cette fois plus à gérer cette situation. Alors les 70 résidents ont été évacués ces dernières heures grâce à un vaste dispositif des secours.
L'envoyé spécial de RTL en Belgique, Valentin Boisset.
La pluie, pour le coup, a quitté notre territoire. Le soleil est arrivé en France, l'été aussi. Ceci dit, attention, les touristes et les habitants ont parfois même été surpris, Alexandre.
Par exemple, sur les côtes bretonnes, avec 30 degrés cet après-midi sur les plages de Fouesnant, dans le Finistère, on a gagné 10 degrés en l'espace d'une semaine. Mais attention, l'eau reste encore fraîche, Nicolas Bobby.
L'océan est à 19 degrés. L'ado marseillais découvre la plage de Cap Cause.
Bon, donc Léo, comment as-tu trouvé l'eau, toi qui viens de te jeter à la mer sans même prendre les précautions d'usage pour te mouiller sans choc thermique?
Elle est un peu fraîche, elle est un peu fraîche.
Et une fois qu'on est dedans,
ça va.
Avec une telle chaleur, la prudence s'impose. Antoine Issette, chef de secteur des nageurs-sauveteurs des pompiers du Finistère.
On se mouille précautionneusement, alors la nuque effectivement, pour avoir l'ensemble du corps qui va être mouillé et qui va s'habituer petit à petit à la température de l'eau.
Nicolas a ramé pour trouver la fraîcheur.
On vient de faire une petite randonnée en canoë.
Il fait plus chaud que je ne croyais.
On s'est baigné dans les eaux cristallines et c'était très agréable.
Bretonne, Hélène adore cette météo.
Alors face à cette chaleur, je bois énormément d'eau, je me protège indice 50, parasol et bain de mer à gogo.
Ensuite, il suffit tout simplement de s'allonger sur la serviette.
Voilà les bons conseils de Nicolas Bobby.
C'est pas mal 19 degrés comme température dans la mer.
C'est déjà pas mal.
Moi ça me va nickel. Attention donc au choc de température, et c'est la même chose d'ailleurs pour les athlètes français à Tokyo. Eux aussi ont dû subir une préparation particulière avant d'aller aux Jeux Olympiques.
Vous voyez, le début des Jeux Olympiques, ce sera vendredi avec la cérémonie d'ouverture. Nicolas Burnand, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. L'atmosphère est lourde et très humide. Les sportifs sont en train d'arriver au Japon. Heureusement, les Français avaient déjà commencé à s'acclimater avant leur départ.
Oui, il s'agit d'une petite salle calfeutrée et surchauffée conçue par l'Institut National du Sport à Paris. Pour se préparer aux JO, le marathonien Hassan Shahadi l'a utilisé à plusieurs reprises ces dernières semaines.
On entre dans une cabine, enfin une chambre, où la température elle est entre 33 et 38 degrés. Au début, tout se passe très bien et on pense qu'on va tenir, mais en fait, on transpire énormément. Il faut bien adapter l'allure pour nous rendre compte un peu de notre niveau de difficulté.
Durant plus d'une heure, le Français court sur un tapis torse nu pour s'habituer peu à peu à l'humidité et à la chaleur. Une série de capteurs sont posés sur son corps.
Donc on nous met un patch derrière le dos. C'est le niveau de sodium dans la transpiration. Quand on n'est pas acclimaté, on perd plus de sels minéraux et donc on se déshydrate plus vite. Là, avec cette acclimatation à la chaleur, le corps il reste à un bon niveau d'hydratation.
L'objectif est de reproduire autant que possible les conditions de Sapporo, où le marathonien se rendra dans 2 semaines pour disputer son épreuve. Franck Brocherie est chercheur à l'INSEP.
On sait que en moyenne, il faut une exposition d'une heure par jour avec des exercices à faible intensité pendant à peu près 2 semaines pour générer toutes les adaptations physiologiques de façon donc optimale. La possibilité de performer dans ces conditions.
Une cinquantaine d'athlètes français, des demi-fondeurs, mais aussi des basketteurs ou des cavaliers ont suivi cet entraînement avant de s'envoler pour Tokyo.
Envoyé spécial de RTL au Japon, Nicolas Burnand.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Alors la météo, tout en ambiance ce soir sur RTL, on a entendu les cigales tout à l'heure avec vous Claire, on a entendu des gens plonger dans la mer. Tout est beau, tout est chaud, le soleil est là.
Exactement, il manque plus qu'une petite citronnade et puis une poignée d'olive et moi ça y est, ça fait mon bonheur. En attendant, le soleil régnera en maître dès demain matin. On aura un petit peu de brouillard qui va quand même s'accrocher près des côtes landaises au niveau du Pays Basque, également près de la région Rhône-Alpes, du Cotentin aussi vers le Boulonnais. Mais après la dissipation de ce brouillard, quand même on aura de très très belles éclaircies, quelques petits nuages de beau temps par endroit, mais rien de bien méchant, une très très belle ambiance. Mais par contre, les entrées maritimes vont persister vers la côte basque. On pourra aussi avoir un petit peu d'instabilité, principalement vers les Alpes du Sud, où des développements nuageux pourraient conduire à des coups de tonnerre qui pourraient se montrer temporairement forts, également près des Pyrénées. Alors prudence pour les températures. En matinée, elles seront comprises entre 14 à 19 degrés du nord au sud. Il fera plus chaud en Méditerranée, donc de 21 à 25 degrés. Et donc dans l'après-midi, 30 degrés seront atteints ou presque sur l'ensemble du pays, surtout dans le sud-ouest où la chaleur sera vraiment écrasante, de 31 à plus de 35 degrés à l'ombre par endroit. Donc on pense surtout à bien s'hydrater. La température sera un petit peu plus modérée au nord de la Seine de 24 à 29 degrés grâce à ce petit vent de nord-est qui rafraîchit la masse d'air.
Merci pour le programme.
Avec plaisir.
À plus tard.
À bientôt.
Claire Delorme, merci beaucoup.